Voici le journal d'Hélène Roussel. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Avec à la une ce matin, la courbe vertigineuse du Covid. Une troisième vague. Pire que tout, les réanimateurs et les médecins des hôpitaux en région parisienne n'ont, disent-ils, jamais vu ça. Les autres titres, Hélène.
C'est bien d'accélérer la vaccination, mais on ne va pas mettre de la poudre de perlimpinpin dans les seringues. Et la maire de Denain, dans le Nord, très en colère. Comme à Abbeville, dans la Somme, hier, elle a dû fermer son centre faute de doses. Et puis aussi, marche pour le climat aujourd'hui, un peu partout en France. À la veille du projet de loi à l'Assemblée. Total au Mozambique qui suspend ses projets face à l'avancée djihadiste. Et puis le changement d'heure cette nuit, pas d'illusion, ça va encore durer quelques années.
À 8h20, question ce matin autour de la liberté d'expression à l'école. On va en parler avec le sociologue François Héran.
France Inter.
Près de 4800 patients en réanimation hier, 194 morts. Le taux d'incidence en région parisienne notamment affole les compteurs. Plus de 630 cas pour 100 000 habitants, en hausse de 17%. Pire qu'il y a un an. En tout cas, les besoins en réa épousent cette courbe grimpante. Les capacités de prise en charge seront vite dépassées. Les mesures actuelles insuffisantes, alerte Jean-François Timsit, chef de service à l'hôpital Bichat.
Quand on voit l'augmentation des cas et l'augmentation de l'incidence actuelle, on sait que dans 15 jours, ça sera encore pire. Vous allez commencer à dire, oh là là, c'est plutôt 500 morts par jour ou 600 morts par jour que 200. Donc oui, j'aurais bien aimé que la décision soit prise avant. J'aimerais bien que ça ne traîne pas trop.
La fermeture des écoles, vous êtes pour, Jean-François Timsit?
Je pense qu'on ne peut pas le faire. L'un ne va pas sans l'autre. Je veux dire, si tous les adultes circulent et que les enfants sont privés de circulation, ça n'a pas de sens. Donc si on le fait, c'est dans le cadre d'un mouvement global de diminution de la circulation des gens les uns par rapport aux autres. Là, le niveau de circulation du virus est tellement élevé et il est tellement contagieux, parce que c'est maintenant que du variant anglais qui est en France, que si on ne fait pas d'action forte, on imagine mal que la situation s'améliore d'elle-même.
Le professeur Jean-François Timsit avec David Doba et Tribune dans le journal du dimanche ce matin, signé d'une quarantaine de directeurs médicaux de la PHP, contraint bientôt de faire un tri et ça concernera aussi bien les patients Covid que non Covid. Nous n'avons jamais, disent-ils encore, connu une situation pareille. Nous ne pouvons rester silencieux sans trahir le serment d'Hippocrate. Les écoles pas fermées, officiellement, car dans les faits, à terme, beaucoup d'entre elles le seront. Dans les 19 départements en restrictions renforcées, nouveau protocole, un seul cas de Covid et c'est toute la classe qui ferme. Ça commence dès demain avec les enfants testés positifs ce week-end.
Et paradoxalement, la vaccination accélérée, 7 jours sur 7, se retrouve parfois freinée par manque de doses.
La vaccination ouverte aux plus de 70 ans sans comorbidité depuis hier, encore faut-il avoir les munitions. À Abbeville, dans la Somme, ou ici à Denain, dans le Nord, les centres ont dû carrément fermer leurs portes hier pour tout le week-end. Un millier de rendez-vous annulés à Denain, la maire Anne-Lise Dufour ne décolère pas.
Ça met en colère parce que entre la communication et la réalité du terrain, nos concitoyens ne comprennent plus. Et donc ils se retournent vers les gens, les élus qu'ils connaissent, c'est-à-dire le maire, en me demandant « Mais pourquoi, Madame le maire, vous n'avez pas les vaccins ?» Je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire pourquoi je n'ai pas les vaccins. Je ne peux pas vous dire pourquoi les doses promises ne sont pas là. Ce que je sais, c'est qu'on a dû décommander 1000 personnes sur ce week-end. On a fait le choix, et il est tout à fait logique, de préserver les gens qui doivent avoir leur deuxième dose, pour être dans les délais nécessaires entre la première et la deuxième dose pour que tout ça soit efficace. Et c'est donc les gens qui attendaient une première dose qui vont être décalés. Alors on entend d'un côté que les vétérinaires et les dentistes peuvent vacciner, mais comme ils ne vont pas injecter une poudre perlimpinpin, ils font maintenant les vaccins. Et nos concitoyens n'en peuvent plus de l'attente et ne comprennent pas pourquoi il y a des effets d'annonce de on vaccine, mais que de l'autre côté on leur dit il n'y a pas de vaccin.
La maire de Denain avec Sophie Morland, France Bleu Nord. Mais il faut tenir car les vaccins arrivent. Le message d'Emmanuel Macron dans le JDD ce matin, 3 millions de doses Pfizer et Moderna livrées la semaine prochaine et bientôt aussi la fabrication des vaccins sur le sol français. Pfizer, Moderna, CureVac, dans quelques semaines nous aurons rattrapé notre retard, assure le chef de l'État qui maintient ses objectifs. Tous les Français qui le souhaitent seront vaccinés avant la fin de l'été.
L'actualité Hélène, c'est aussi le projet de loi climat qui arrive demain à l'Assemblée, mais aujourd'hui, dans la rue.
Des marches pour le climat un peu partout en France. Une façon de faire pression sur les députés pour qu'ils musclent un texte jugé bien trop timide par les militants. La crise sanitaire, disent-ils, ne doit pas effacer les grands enjeux. Manon Vautier-Cholet.
pas question pour les militants écologistes de reporter les rassemblements pour le climat déjà annulés il y a un an. Gabriel Mazzolini de l'association Les Amis de la Terre défilera à Paris.
La vie démocratique ne peut pas s'arrêter. C'est la seule vraie loi climat du quinquennat. C'est la seule loi qui pourrait avoir la possibilité d'être ambitieuse si la majorité veut en prendre la mesure. Donc la mobilisation sera un succès quoi qu'il en soit, malgré la situation sanitaire.
Une situation qui n'a entraîné aucune interdiction de manifester de la part des préfectures, selon les organisateurs. Ethan Delac du mouvement Youth for Climate veut montrer que la jeunesse reste mobilisée.
Même si ça passe un peu au second plan avec la crise actuellement du Covid, vu qu'on va rentrer dans une période de débat, même début de campagne présidentielle, toutes ces choses-là, on vient être là pour rappeler que le climat doit être au cœur des débats et des préoccupations actuellement.
À La République En Marche, on insiste sur le contexte sanitaire. Le porte-parole du groupe à l'Assemblée, Pierre-Alexandre Anglade, appelle les manifestants à la plus grande prudence.
Il est extrêmement important que celles et ceux qui y participent respectent l'ensemble des gestes barrières et de la distanciation sociale telle qu'elle est imposée aujourd'hui par le gouvernement.
Des mesures que les organisateurs comptent bien faire respecter dimanche, à commencer par le port du masque. Ils savent que la bonne gestion de ces manifestations conditionnera la tenue des prochaines.
À l'étranger, la journée la plus sanglante depuis le coup d'État en Birmanie il y a presque deux mois, plus d'une centaine de manifestants pro-démocratie tués par la junte hier selon les ONG. Des enfants parmi les victimes et la communauté internationale horrifiée, les chefs militaires de 12 pays occidentaux exhorte l'armée birmane à cesser ses violences. Le groupe Total, menacé par les djihadistes au Mozambique, son méga projet gazier près de la ville de Palma, une ville tombée aux mains des terroristes hier, a été à nouveau suspendu. Le spectre de Daesh au Mozambique et ses conséquences, explication avec Wassim Nasser, journaliste et spécialiste des mouvements djihadistes.
C'est une attaque qui a été préparée, qui a été pensée. Ils ont commencé à attaquer des villages autour de Palma. Très vite, ils sont rentrés dans la ville. Ils étaient à minima 100. Donc, c'était un peu, on va dire, prévu, parce que la situation se dégrade depuis un moment. Des mouvements djihadistes sont implantés sur zone depuis plusieurs années. Dernièrement, ils ont voué allégeance à l'État islamique, donc en 2018, qui a revendiqué des dizaines d'attaques en son nom dans une zone économiquement très importante pour le Mozambique, gisement gazier où Total a fait le plus gros investissement de son histoire, mais pas que Total, hein, il y a aussi Exxon et d'autres compagnies qui sont présentes. Donc vrai défi sécuritaire et économique pour le pays et pour les investisseurs.
Wassim Nasser répondait à Julie Pietri. Et puis en ce jour de fête catholique, dimanche des rameaux, explosion ce matin dans une église de Makassar en Indonésie, des victimes mais pas encore de bilan officiel.
Et puis on va rappeler que nous nous sommes réveillés à l'heure d'été ce matin.
Et oui, avec l'impression étrange de se lever plus tard que d'habitude, mais d'être en plus tôt. L'impression étrange de se lever plus tard que d'habitude, mais d'être encore fatigué.
Ah, d'accord.
Okay. Pas d'inquiétude, on a donc perdu une heure, Patricia.
Oui,
on est d'accord.
On a perdu une heure de sommeil.
Avancer les montres, c'est comme s'il était 6h08 en réalité. Vous ne rêvez pas, il est bien 7h08. Un sujet qui revient chaque année, qui tourne un peu comme les aiguilles. On a dit que juré promis, c'était la dernière fois ce casse-tête, hein, mais la fin du changement d'heure. Antoine Geoffin, ne pas se faire d'illusions, ce n'est pas pour tout de suite.
En septembre 2018, la Commission européenne avait proposé de mettre fin au changement d'heure partout en Europe. L'échéance était fixée à 2019, mais dans la foulée, le Parlement a voté un report à 2021. Sauf qu'entre-temps, le contexte a changé en Europe, explique Sabine Tilley. Elle est députée LREM d'Indre-et-Loire et présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale.
La réforme qui a été proposée est bloquée en raison de changements de priorités politiques, bien sûr, en raison de ce qu'on vit actuellement avec la crise Covid, mais également le Brexit. Et la dernière fois que les ministres se sont réunis autour de cette thématique, c'était le 2 décembre 2019. Hein. C'est la coordination qui pose problème. Dans une région transfrontalière, ça peut être très très compliqué de travailler de part et d'autre de la frontière si on n'est pas coordonnées également pour le transport et le commerce.
Oui, parce que chaque État membre devra dire s'il reste à l'heure d'été ou à l'heure d'hiver. Toute l'Europe ne sera pas forcément à la même heure quand la réforme sera appliquée, ce qui n'est pas pour demain. Il y a deux ans, lors d'une consultation en ligne lancée par l'Assemblée nationale, plus de 2 millions de Français s'étaient exprimés. À 59%, ils préféraient l'heure d'été.
Enfin, le sport et le foot. Cet après-midi, les Bleus au Kazakhstan. Deuxième match de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. Hier, c'était Serbie-Portugal avec la scène du match. Cristiano Cristiano Ronaldo, foudrage, qui quitte la pelouse après un but refusé. Énorme colère, gros carton jaune aussi, score final de partout.
Le journal d'Hélène
Rousseau. Là, on est bien en été, c'est bien l'heure d'été.
C'est bien l'heure d'été, c'est bien, on va mettre tout ça dans l'ordre, tout ira bien. Patricia, Jean-Pierre Rameau pour le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Un dimanche au soleil, sauf dans le nord, Jean-Pierre Rameau.
Oui, effectivement, Eric, une perturbation circule actuellement sur les îles britanniques. Du coup, les régions du nord de la France se retrouvent en marge sud de cette perturbation. En conséquence, prévoyez un voile épais de nuages d'altitude entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. Et partout ailleurs, le soleil va briller généreusement. Quelques bancs de cirrus viendront décorer votre ciel au nord de la Loire. À noter la présence de nuages bas vers la Côte d'Azur et la Corse en ce début de matinée, évoluant assez rapidement vers un ciel variable. Les températures vont monter d'un cran aujourd'hui, les maximales cet après-midi évolueront entre 14 et 23 degrés du nord au sud. Et puis la semaine prochaine, prévoyez une belle séquence ensoleillée jusqu'à mercredi, avec en prime des températures extrêmement douces. Comptez sur une moyenne de 23 à 24 degrés dans la moitié nord du pays, jusqu'à 25 dans la moitié sud.
Jean-Pierre Rameau, Météo France.